Sud Vendée Sport, Antoine Judith.
Bonjour à toutes et à tous, bonne année à tous et bienvenue dans le Sud Vendée Sport, le premier de 2024. Une superbe émission à venir avec autour de la table Marianne, Olivier et Christian. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Hello.
Et
bonjour.
Bonne année.
Meilleurs vœux à tous.
Dans une année 2024 forcément marquée par le saut des Jeux Olympiques, une année particulière, très attendue, très excitante à venir. On va avoir une superbe émission, nous, en attendant. Aujourd'hui, on aura notamment déjà un superbe invité, Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe en 2021. 2024, c'est aussi l'année du Vendée Globe, on en parlera avec lui. Autre invité, Charles Devineau, entraîneur de la Nationale 3 de l'AS Châtaigneraie, dixième de son groupe. On fera le point à la mi-saison. On parlera également de basket avec le NBA Paris Game qui avait eu lieu donc à Paris justement la semaine dernière. Et on parlera également des premiers pas de Victor Wembanyama en NBA. Puis on terminera cette émission avec une partie plus VTT et sport en hiver. Pas sport d'hiver, mais sport en hiver. Comment faire du sport en hiver, se motiver, quelle pratique adopter. Le Sud Vendée Sport, c'est parti.
Sud Vendée Sport, l'invité.
Bonjour Yannick Bestaven, donc vous êtes le vainqueur sortant du Vendée Globe. On arrive sur l'année 2024 avec donc un nouveau Vendée Globe au programme. Dans quel état d'esprit vous êtes pour cette préparation donc de ce nouveau Vendée Globe?
Bah, ça va, je suis en pleine forme, le bateau est en chantier, on répare les petits soucis qu'on avait eu sur la Transat Jacques Vabre. Voilà, tout va bien, j'ai l'impression que ça en... C'est encore loin le Vendée Globe, donc il y a encore du temps de préparation.
Qu'est-ce qu'on fait en ce moment à 10 mois du Vendée Globe dans la préparation?
Eh bien, on prépare le bateau, on renforce le bateau, on prépare le skipper avec de la prépa physique, voilà, on fait toutes ces choses-là.
Donc on est sur un nouveau bateau, Maître Coq 5, qui a été mis en mer en 2022. C'était quoi le ressenti sur les premières courses?
C'est un bateau qui a du potentiel, alors c'est pas un nouveau bateau dans le sens où c'est pas les derniers dessins, parce que c'est un bateau qui a été dessiné pendant le Vendée Globe précédent. Mais pour nous, c'était plus simple c'est des plans d'un autre bateau qu'on avait racheté. Mais c'est un bateau avec des grands foils, donc plus performant que le bateau que j'avais lorsque j'ai gagné l'édition précédente du Vendée Globe. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir le bateau le plus polyvalent possible. Peut-être pas le plus rapide, mais le plus polyvalent parce que je sais que le Vendée Globe est une course d'endurance et qu'il faut un bateau costaud pour le terminer.
C'est justement l'équilibre peut-être qui a été mis en lumière, notamment dans la dernière édition, le fait d'avoir des bateaux rapides mais pas trop fragiles non plus.
Bah oui, moi j'ai gagné le Vendée Globe avec des foils plus petits que mes concurrents et avec un bateau moins rapide sur le papier, quoi. Mais un bateau que je connaissais bien et sur lequel j'ai pas eu peur de tirer dessus. Donc je pense qu'il faut essayer de réemployer la même méthode, même si encore une fois le niveau on a cessé de monter, il y a beaucoup de skippers, beaucoup de très beaux projets au départ de la prochaine édition, mais voilà, il faut y aller avec l'envie de faire bien, de se faire plaisir.
Il n'y a pas forcément, alors on se parle du moins, d'objectifs de résultats, la pression de se dire, tiens, j'ai gagné, je vais avoir une étiquette collée sur mon dos.
Bah non, parce que moi j'ai la chance de l'avoir déjà gagné, donc ça je l'ai fait, donc je connais la victoire, donc non, j'y vais moi surtout... dans le but de prendre beaucoup de plaisir, de faire plaisir à tous ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années, notamment mes partenaires Maître Coq et puis toute mon équipe qui travaille d'arrache-pied pour m'aider à préparer cet objectif. Donc voilà, j'ai envie de faire les choses bien, mais le résultat, ça sera que la récompense de tout ça.
Yannick, un dernier mot. En ce moment, il y a l'Arkea Ultimate Challenge qui est alors une copie du Vendée Globe, mais avec des bateaux ultimes, c'est-à-dire des bateaux beaucoup plus grands que les Imoca. Un défi énorme que se sont lancés six marins. Vous, en tant que marin, justement, comment est-ce que vous voyez cette course?
Ah bon, c'est une très belle course. Hein. C'est beau de voir ces multicoques volants partir faire le tour du monde pour la première fois. Donc, je la suis de près. Je suis ça tous les jours. C'est des nouvelles courses, c'est des nouveaux projets, de nouveaux bateaux. Voilà, moi je suis resté en Imoca parce que c'est des projets les plus apportés de mon expérience et puis des budgets de mes partenaires. Parce que les ultimes, c'est des budgets importants aussi. Mais non, je trouve que ce qu'ils font, c'est fantastique, c'est fabuleux, ça fait rêver. Ouais.
Merci beaucoup Yannick Bestaven. Bon, vous souhaitez bon courage dans la préparation, ça va, vous avez encore du temps. Et puis à très vite.
Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.
Merci, au revoir. Bon, alors le Vendée Globe, c'est l'Everest des mers, une course absolument incroyable, même quand on n'est pas fan de sport, on en entend forcément parler. Bon, il y a l'aspect local évidemment. Christian, qu'est-ce que ça t'inspire ce défi? On rappelle, hein, tour du monde en solitaire sur un bateau Les plus rapides mettent 80 jours à peu près. Certains mettent 100, 120 jours. C'est une aventure. Et justement, on va parler de mental tout à l'heure. C'est quand même un défi énorme.
C'est une course extraordinaire. Et d'ailleurs, j'aime bien ton expression « l'Everest des mers » parce que en fait, ça en dit long sur notre capacité en fait, dans notre pays. Et l'année où on organise les JO, donc les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a quand même en France une quantité d'événements internationaux extraordinaires, dont donc le Vendée Globe. Donc, c'est pour ça qu'à titre personnel, on peut tout suivre. J'arrive pas trop à suivre les résultats, on va dire exactement, du Vendée Globe en tant que tel. Mais par contre, ouais, quelle excellence en France pour monter des événements à renommée internationale dans toutes les disciplines. Là, moi, je pense aussi, par exemple, parfois à d'autres disciplines. Là, dans le motocross, on aura l'Enduropal. Au Touquet, exactement, qui aura lieu là, donc, en début février.
Championnat du monde de motocross que Saint-Jean-d'Angély accueille régulièrement, par exemple, ou d'autres pistes en France, c'est fou, quoi.
Exactement, donc après, c'est pour ça, donc là j'ai pris ces exemples-là, mais parce qu'après on a Roland-Garros, on a le Tour de France, on a des événements exceptionnels, et le Vendée Globe, c'est en France quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense pas qu'on est, on peut pas être insensible, en fait, dès qu'on entend Vendée Globe à la télévision, à la radio, ou que sais-je, ça nous intéresse. Et après, pour moi, à titre personnel, en effet, dans le mental, se dire qu'on va passer autant de temps dans la mer sans pouvoir...
Tout seul,
avec l'aspect aussi survie qui rentre en ligne de compte. Quelle aventure. Donc moi, je le vois sur cette thématique-là, et j'ai envie de féliciter autant pour moi le premier que le dernier. En fait, c'est juste une aventure et un parcours remarquable pour l'ensemble de ces sportifs-là, quoi. Sportifs et sportives.
Olivier, la même chose.
Alors moi, j'étais pas un grand fan de la voile, il faut vous dire ce qui est. Et puis un jour, c'était en 1983, c'était sur France Inter, j'ai écouté l'interview de Philippe Gentot, qui avait remporté la British Oxygen Company, qui était la première course en solitaire autour du monde, et qui racontait une nuit de galère qu'il avait eue. Il était tombé deux fois à la mer, dans le 40e rugissant. Et là, j'avais trouvé ça extraordinaire, que je me dis, putain, mais un type tout seul sur son bateau, qui tombe deux fois à l'eau, qui remonte, qui même une fois, il voit son bateau s'éloigner, il n'arrive pas à remonter, et qui après, ce Philippe Gentot a créé le Vendée Globe en 1990, et qui donc a amené un grand coup de projecteur sur la Vendée. Je pense que ça a été le grand essor de la Vendée, c'est le Vendée Globe, il faut dire ce qui est. Effectivement, c'est une course prodigieuse, c'est, maintenant ce sont des Formule 1 des mers, c'est un peu comme la course automobile, maintenant il n'y a plus l'endurance, c'est vraiment à fond du début jusqu'à la fin. Il faut voir les bateaux, c'est monstrueux, quoi. Voir tous ces bateaux, toute cette technologie embarquée également. Et puis, les gars, il faut qu'ils ébrouillent tout seuls, quoi. Et voilà. Et c'est là il y a quand même encore le côté humain où il faut savoir gérer sa course, savoir gérer son effort, savoir aussi ménager son bateau tout en allant très vite. Et effectivement, c'est une super course.
Marianne.
Alors, n'étant pas originaire d'ici, c'est vrai que j'ai pas forcément trop de connaissances des activités autour de la mer et de cet événement-là en particulier. J'avoue que de là d'où je viens, c'est pas non plus une activité dont on va faire la promotion. Par contre, il y a un petit quelque chose qui a changé pour moi il y a quelques années, c'est la promotion et la communication autour de ces grands événements de voile, et en particulier le Vendée Globe. C'est-à-dire qu'on a eu toujours une mutation des sportifs et sportives de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des femmes qui allaient skipper des bateaux gigantesques. On parlait de Formule 1 des mers, d'Everest de la mer. Et là, du coup, moi, en tant que sportive, ça m'a davantage passionnée. Donc du coup, j'ai suivi plus les aventures de ces femmes que leurs résultats. Bon, sachant que des grandes skippeuses comme Hélène MacArthur ont prouvé sans aucune difficulté qu'elle était largement à la hauteur d'un tel rendez-vous. Après, ça a permis vraiment d'ouvrir vraiment de je peux pas dire ouvrir de un regard en fait vers de nouveaux horizons, c'est-à-dire que c'est un sport qui peut être mixte, et c'est en ça en fait que j'ai commencé à m'intéresser à ces activités-là et au Vendée Globe en particulier quand je suis arrivée ici, puisque on ne peut pas en fait arriver en Vendée sans s'intéresser à cette ouais. à ce bel événement, et puis comme tout le monde avoir l'envie d'aller voir le départ le long des côtes, c'est quand même quelque chose qui nous fait vibrer.
Parler des femmes, justement, il y en aura 6 au départ du Vendée Globe. Logiquement, le prochain, Hélène MacArthur, qui avait terminé deuxième du Vendée Globe en 2000. Voilà cette page voile donc, qui se termine. Notre défi cette année dans le Sud Vendée Sport, c'est d'avoir un skipper du Vendée Globe lors de chaque émission. Donc vous avez eu Yannick Bestaven, le dernier vainqueur. On a commencé par du lourd. On va essayer de vous en proposer donc à chaque fois. On termine cette page voile, on enchaîne avec le foot.
Sud Vendée Sport, l'actu de la semaine.
Un nouvel invité dans cette émission, dans ce Sud Vendée Sport, c'est Charles Devineau, entraîneur de l'équipe de National 3 de la Châtaigneraie, actuellement 10e. Bonjour Charles.
Bonjour.
Alors avant de parler de l'aspect global, puisqu'on rappelle que c'est la mi-saison, alors pour vous du moins, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui n'ont pas encore fait leurs 13 matchs dans cette poule ouais. de National 3, racontez-nous un petit peu ce match du week-end dernier, défaite 1-0 à domicile contre Saint-Philibert-de-Grandlieu, peut-être un peu de frustration de prendre ce but en fin de match.
Oui, c'est le mot, je viens de regarder... la première mi-temps, là, de nouveau, et on a tiré 7 fois au but. Sur la deuxième, on a encore des situations pour prendre le score face à ce qui est la meilleure défense du groupe, et on l'a vu aussi ce week-end. Mais les gars ont fait un très bon match en bousculant cette équipe. Il y a presque 20 points qui nous séparent, puisqu'ils sont leaders avec 2 matchs en retard. Donc il y a presque 20 points qui séparent les deux équipes, mais sur ce que j'ai vu... samedi dernier, dans le rendu et dans les contenus, ça explique pas ce delta.
On a vu une équipe capable de bousculer un des, alors je sais pas si c'est favori à la montée, mais en tout cas une équipe capable de bousculer le leader du championnat.
Oui, ça c'est ce qui ressort de ce match-là. Après, faut être bon dans les deux surfaces. Ils ont été plus efficients que nous, en ayant moins d'occasions que nous, mais ils ont fait mal à 10 minutes de la fin, et nous, on a eu des situations, un bon nombre de situations dangereuses, mais leur gardien ou notre manque de réussite ou notre maladresse nous a pas permis de prendre le score ou au moins de revenir sur la fin de match.
Bon Charles, c'est la mi-saison pour vous. Il y a un an, ouais. Votre club était au cœur de l'actualité puisque vous disputiez un 32e de finale de Coupe de France face à Lorient, et puis il y a cette saison qui s'est terminée par une montée de Régional 1 en National 3, donc le bilan, 10e après 13 matchs, 12 points pris, est-ce que c'est dans vos standards? Est-ce que c'était à peu près à quoi vous vous attendiez à la mi-saison?
Non, j'espérais plus et on espérait plus. On a souvent fait jeu égal avec nos adversaires, mais on est ressorti avec peu de points. Je pense qu'on serait mieux avec 16 ou 17 points. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. On est qu'à 12. Le transfert entre la saison passée où tout nous souriait, on avait un bon nombre de matchs gagnés, et là où on en a pas mal de perdus, c'est faut faire attention dans la gestion des émotions et à l'état d'esprit qui doit être irréprochable chez nous pour aller chercher notre maintien le plus vite possible, ou en tout cas aller le chercher sur cette deuxième partie de saison.
Il y a eu une période en plus, le début de saison a été assez compliqué, beaucoup de matchs où vous n'étiez pas payé. Mentalement aussi, vous avez réussi un petit peu à redresser la barre, notamment sur la période novembre-décembre qui a été un peu meilleure pour vous.
Ouais, c'est ça exactement. On a raté notre début de championnat, qui s'explique par le fait déjà de se mettre au rythme et à l'intensité de ce qu'exige le championnat de N3. On a été un peu timoré sur certaines rencontres, on n'a pas été au bout des choses. Je suis parti sur un système très offensif qui correspondait à ce qu'on faisait la saison passée, qui nous a permis de marquer pas mal de buts, mais c'était au détriment des tâches défensives où on a concédé par contre trop de buts. Et dans un championnat comme celui-ci, qui était exigeant, compliqué, il faut réduire les situations offensives de l'adversaire, et c'est ce qu'on a mal fait en début de championnat. Et sur la période novembre-décembre, on a été un peu plus pragmatique. Puis j'ai changé de système. Les gars ont aussi adhéré à ce nouveau projet, et on a ramené des points et des précieuses victoires.
Alors là maintenant on va essayer un petit peu de regarder aussi l'effectif, parce que quand on voit notamment l'équipe qui a joué face à Saint-Philbert samedi, c'est de nombreux joueurs issus du canton de la Châtaigneraie. Alors j'ai pas le chiffre exact, mais quand on regarde le 11 de départ, il y a peut-être la moitié qui sont des joueurs issus du CRU. J'imagine que c'est une énorme fierté ça pour vous.
Bah pour tous les acteurs du club qui œuvrent et qui ont œuvré. La formation, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est un investissement aussi financier. On met des infrastructures, des éducateurs pour que nos jeunes puissent s'épanouir, progresser, et puis pour certains d'entre eux arriver dans les équipes seniors, et pour les meilleurs d'entre eux arriver à être compétitifs dans l'équipe Lyon. Il y en avait 7 au départ sur le 11 titulaire qui font partie de la formation de l'AST, ou en tout cas qui sont sortis des clubs du canton, et si on pourrait même rajouter à ça deux joueurs qui sont maintenant depuis de nombreuses saisons à l'AST, mais c'est ce qu'on veut faire, et de toute façon on n'a pas le choix si on veut exister. On peut pas se permettre d'aller chercher que des joueurs à l'extérieur. Puis j'aurais pas accepté de toute façon le projet du président. Si m'intéresse, c'est de regarder ce qui se fait en bas et de travailler avec l'équipe technique pour qu'on arrive à promouvoir certains jeunes du canton.
Ce qui doit être satisfaisant pour vous aussi, c'est de voir que il y a 5 équipes aujourd'hui à la Châtaigneraie, et notamment que l'équipe réserve est en tête de son groupe de Régional 3. Il y a une émulation qui se crée au niveau de l'effectif là.
Bah, c'est vrai que sur les 4 équipes réserves, si on peut les appeler comme ça, on est en tête, ou quasiment en tête, hein. La D5 est deuxième, la D4 est deuxième aussi, la D2 est troisième, et puis l'équipe réserve, qui est en R3, est première de son groupe. Elle a un match très important la semaine, dimanche prochain, là, contre le deuxième. Mais oui, il y a une émulation, il y a quelque chose qui se crée, une dynamique en ce moment au sein du club. On a une centaine de seniors, on a créé une session aussi futsal. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'on a beaucoup de demandes, mais aujourd'hui, on arrive à répondre en termes d'infrastructure, en termes d'éducateurs, en termes d'organisation.
Bénévole.
Le club est, ouais, bénévole aussi, il en faut. Les dirigeants, il en faudra encore plus, hein. Mais aujourd'hui, ça tient, on n'est pas à flux tendu, mais bon, faut veiller à ce qu'on puisse accueillir tout le monde dans les meilleures conditions, et puis tant mieux si on a des résultats, mais c'est vrai que c'est beaucoup de jeunes qui créer cette dynamique en ce moment, et bon, faut continuer, faut la cultiver. Je crois que la réserve a parmi un ou deux anciens qui vont de temps en temps. On a beaucoup de joueurs issus de la génération 2002 et puis même des plus jeunes qui jusqu'à 2005, quoi.
Et puis c'est vrai que la Châtaigneraie, quand on regarde en National 3, c'est une petite ville. Quand on voit face à Vertou, face à Nantes, face à Sablé, c'est vrai qu'aussi vous devez vous déplacer certaines fois quand on va jouer notamment à Marcel Saupin avec cette petite commune qui va défier les grandes villes de cette poule de National 3.
Ouais, c'est ça. C'est même un peu atypique, voire pas normal. Mais parce que pour bien connaître le championnat de N3, en étant passé par Cholet ou La Roche dans des footballs récemment, en deux ans, avec l'espace de deux ans, avec la refonte des championnats, les effectifs se sont renforcés. Il y a beaucoup de compétitivité dans ce que les adversaires proposent, donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour pouvoir exister dans le championnat. C'est pas simple.
Alors, il y a la deuxième partie de saison pour terminer, Charles, qui va se profiler devant vous. J'imagine qu'on peut vous souhaiter le maintien.
Bah oui, c'est ce qu'on veut. Et alors, ce ne serait pas une catastrophe non plus de redescendre, mais aujourd'hui, il faut qu'on se maintienne pour continuer la dynamique du club, continuer tous les projets qui sont en cours ou qu'on a en tête. Donc, voilà, le maintien, on joue le maintien. On dit c'est que le plus rapide c'est le mieux, parce que ça permet d'avoir un peu de sérénité et d'anticipation pour la future saison. Maintenant, il reste toute la phase retour à faire, commencer par un déplacement à Vertou dès samedi prochain qui sera périlleux. Donc bon, à nous de bien le préparer. Je crois que les gars ont compris la façon dont on voulait y arriver. Donc maintenant, on arrive à mettre un but de plus que l'adversaire.
Merci beaucoup Charles Devineau d'avoir été avec nous. On rappelle que voilà, l'AS Châtaigneraie en National 3 est actuellement 10e de son groupe. Alors on y verra un peu plus clair, il y a beaucoup de matchs en retard. Hein. Et même au niveau de la zone de relégation, c'est difficile pour l'instant de se projeter. Merci beaucoup Charles, bonne fin de saison.
Oui. Merci, c'est gentil. Au revoir.
Et d'autres résultats dans cette poule de National 3, justement pour vous dire que Fontenay a fait 0-0 du côté de Chalands. Beaucoup de clubs vendéens dans cette poule. Poix reste incliné sur la pelouse de la réserve de Niort. 2-1. Voilà pour le National 3, Saint-Philibert de Grandlieu en tête. Donc, un mot de National 2 pour vous dire que les Herbiers sont leaders. Ils ont été l'emporter du côté de Libourne, 2-1. 4 points d'avance donc sur le deuxième Libourne. Les Abrotais en tête de leur groupe de National 2. La Roche-sur-Yon a fait match nul un partout du côté de Trélissac. Et puis, on jouait des matchs en retard parce que c'est un week-end de coupe. Ce week-end, juste pour vous dire qu'en Régional 2, la réserve de Fontenay a fait un partout à la Tessoual, 3-3 entre l'Hermenot et les Généraux d'Hier en Régional 3, et puis un mot de basket, notamment pour vous dire que Luçon-Saint-James en National 3 s'est imposé dans le derby 76-67 face à la Roche-Vendée Basket. Le basket, on y vient justement avec Christian. C'était le NBA Paris Game la semaine dernière, Cleveland contre Brooklyn, c'était ça, à l'Accor Arena de Bercy. C'était la deuxième année de suite que troisième année de suite que l'événement avait lieu. Encore une fois, un franc succès dans les tribunes, beaucoup de stars, c'est sûr, mais une belle fête de la NBA en France.
Ouais, un événement qui s'enracine en France, et je trouve ça vraiment plutôt pas mal, avec des belles perspectives aussi pour les années suivantes. Puisque bah, les rumeurs commencent à se confirmer pour le fait que ça puisse se reproduire l'année prochaine avec les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, et potentiellement deux matchs dont on ne sait pas encore si les deux auraient lieu à Paris. Il pourrait y avoir un match à Paris et un autre match ailleurs, donc à voir comment ça peut... En tout cas, voilà, autant la qualité du match n'était peut-être pas si extraordinaire que ça, mais la NBA est venue asseoir, on va dire, un peu sa force sur le sol français, avec des accords aussi de la NBA avec la Fédération française, la Ligue nationale de basket, sur notamment la partie formation, puisque on voit bien que la NBA s'intéresse quand même depuis très longtemps à l'aspect international, mais d'autant plus que maintenant les stars et les vedettes quand même s'appellent Nikola Jokic, Luka Doncic, Victor Wembanyama, on commence à entendre quand même des sacrés noms, et à part peut-être des fois des frasques chez certains joueurs américains, la médiatisation se fait beaucoup au niveau du basket pur sur des joueurs étrangers. Donc je pense qu'ils insistent beaucoup sur ce sujet-là, et je trouve ça très intéressant pour nous en tant que Français, avec des motifs d'espoir pour notre formation à la française, en tout cas.
Bah, Adam Silver, en tout cas, fait que de répéter le chef de la NBA, qui fait que la France est un marché important, que la France est une terre de basket, finalement, on le voit encore, potentiellement 3 Français dans le top 10 de la prochaine draft, notamment Tijen Salin, qui évolue du côté de Cholet. Ouais. Des joueurs à fort potentiel. Victor Wembanyama, donc, ça fait 3 mois que la saison NBA a commencé, on est déjà pas loin de 40 matchs disputés. Ses premiers pas avec San Antonio, alors collectivement c'est difficile puisque San Antonio est une des pires équipes de la ligue. Individuellement, on voit des choses déjà très intéressantes.
Oui, bah après individuellement, on se doutait bien qu'il allait arriver dans un terrain de jeu qui lui convient. À part que, et c'est là peut-être le décalage qu'il y a, je pense que personnellement j'ai un peu du mal avec ce que les San Antonio Spurs ont fait depuis 2-3 ans, et je pense que c'est ça aussi qui se ressent sur le terrain, puisque l'intégration de Victor, je dis pas qu'elle est compliquée, hein, elle est pour moi perfectible, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que le jeu collectif produit par les Spurs est très complexe, et du coup je pense qu'au départ il a eu du mal à s'y retrouver, il a beaucoup forcé notamment, donc il a un pourcentage shoot qui est pas extraordinaire, donc avec des choix de shoot qui sont un peu litigieux, mais je pense que c'est un peu le marasme collectif qui fait que c'est difficile d'intégrer aussi un joueur très fort avec des joueurs qui encore, on a l'impression, sont en perte de repères, enfin en recherche de repères permanente. Et ça donne quelque chose d'extraordinaire déjà à la visibilité, c'est-à-dire quand même, hein, quand on est présent autant en rebond, en contre, hein, tous les joueurs le disent, hein, ils changent le jeu, ils changent littéralement le jeu vis-à-vis des équipes adverses, mais on sent que le jeu des Spurs, ça patauge, ça patine encore, mais il y a des motifs d'espoir, voilà, il y a Chet Holmgren qui est en lutte avec le Victor pour être le rookie de l'année, arrive dans une équipe, donc après une saison blanche l'année dernière, donc OKC, qui il y a deux ans se prenait des tolls des fois de 70 points, hein, ça arrivait, hein, donc vraiment des matchs très compliqués, là cette année ils sont deuxièmes au classement de la conférence Ouest, et mine de rien ils font un parcours, et Chet Holmgren fait une saison où il peut peut-être même espérer être rookie de l'année.
Oui, non, parce qu'il faut le dire, Victor Wembanyama n'a pas la certitude aujourd'hui d'être rookie de l'année.
Exactement.
Peut-être aussi par rapport au marasme un petit peu collectif qui est le sien, et aussi à la gestion de Greg Popovich qui le fait jouer rarement plus de 25 minutes. On l'a vu encore la semaine dernière, premier triple-double en NBA, mais sur des temps de jeu, on rappelle que NBA c'est 48 minutes les matchs, hein, c'est 8 de plus que le basket FIBA traditionnel. Il le joue que 25, c'est-à-dire à peine la moitié, tout juste la moitié des matchs. Il est en fait un petit peu protégé, on protège le joyau.
Exactement, très protégé sur l'approche justement de sa gestion physique, du corps, par rapport à la NBA, pour en faire comme une année, on va dire, de découverte, un peu pris aussi justement sous le sens de la responsabilité, pour voir comment il va tirer lui force du groupe aux alentours. Et je pense que c'est aussi volontaire de la part des Spurs pour voir justement avec qui il va pouvoir compter dans l'avenir sur le noyau des jeunes joueurs, hein, puisque je pense des vétérans qui vont à mon avis aller chercher une bague ailleurs, qui seront peut-être libérés ou transférés, mais justement pour voir quelles affinités ils peuvent construire pour le futur noyau de l'équipe, un peu à l'image de ce qu'a fait OKC avec un plus jeune entraîneur certes, mais en tout cas je pense que San Antonio, on a du mal à comprendre tout, mais ils font pas n'importe quoi, ça c'est évident.
En tout cas la bonne nouvelle a priori c'est que Victor Wembanyama ne sera pas en playoff, les Spurs ne seront pas qualifiés, et donc ça veut dire qu'il sera libéré dès la fin avril, début mai, pour l'équipe de France ensuite, et faire les Jeux Olympiques cet été. C'est tout l'enjeu évidemment d'avoir Victor Wembanyama à Paris cet été. Merci Christian. On enchaîne avec un autre événement qui fait un petit peu l'actualité en ce moment, beaucoup même, c'est le Dakar, le Rallye Dakar qui a lieu cette année en Arabie Saoudite, Olivier, dans des paysages absolument incroyables et avec les vétérans qui font encore de la résistance.
Alors oui, effectivement, on parlait tout à l'heure du Vendée Globe qui était une grande aventure humaine, et ben, le Paris-Dakar, c'est la même chose. Cette épreuve créée en 1978 par Thierry Sabine, effectivement, c'est la découverte de l'immensité des déserts. Effectivement, là aussi, il faut beaucoup de courage pour affronter tous les aléas de la course. Effectivement, les anciens font la résistance, que ce soit Carlos Sainz ou Sébastien Loeb, voilà, des pilotes qui sont connus dans le monde des rallyes, sont toujours aux avant-postes. Sébastien Loeb est en train de remonter à grandes enjambées sur la tête du classement général, puisqu'il a 19 minutes de Carlos Sainz. Il a connu beaucoup de problèmes, Sébastien Loeb, dont une étape où il a crevé trois fois. Donc effectivement, il n'a pas cédé au découragement, et donc là, il enfile les victoires d'étape. Donc il remonte très fort, et d'ailleurs, c'est son objectif cette année, c'est de remporter enfin le Paris-Dakar. Et puis je donnerai un petit coup d'œil aussi à un pilote des Sables d'Olonne qui s'appelle Roland Chabot, qui participe pour la 28e fois au Paris-Dakar au volant de Toyota Hilux numéro 236, qui lui aussi a connu la première semaine des problèmes d'embrayage sur sa voiture, et là ils sont remontés au 21e rang au classement général, donc il espère finir dans les 15, entre les 10 et les 15e places. Donc on lui souhaite un petit coup de chapeau, et puis on va suivre de près un peu cet exploit de Roland Chabot d'être au départ de ce Dakar. Et voilà, c'est aussi de se faire connaître un petit peu à travers le désert, la Vendée. Et donc, voilà.
Porter le drapeau vendéen dans le désert saoudien.
Voilà, tout à fait, voilà, tout à fait. On est toujours dans les sables. Sable saoudien, sable de l'homme, c'est ça, pareil. Donc aujourd'hui, Sainz est en tête avec son Audi devant Sébastien Loeb, son ProDrive, et en troisième position, c'est Toyota avec Moraes. Donc c'est très bien parce que voilà, c'est assez hétéroclite. Hein, voilà, il y a plusieurs constructeurs qui sont dans le groupe de tête. Après, en moto, nous avons Brabec qui est en tête avec sa Honda, Branche qui est deuxième avec sa BMW, et Ignacio qui est troisième avec sa Honda. Donc là, on attaque la deuxième semaine du Paris-Dakar. Donc la course est ouverte encore. Hein, voilà, c'est, ça peut se jouer sur une étape, ça peut être, on peut être en tête et puis une étape devient catastrophique, voilà, par des problèmes mécaniques ou des crevaisons également. Et donc voilà, la course est ouverte pour encore cette très belle aventure qui perdure malgré la disparition de Thierry Sabine en 1986. Donc le Paris-Dakar est toujours là, toujours de bon pied.
Le Paris-Dakar perdure, et le Paris-Dakar, on le rappelle maintenant depuis une dizaine d'années, qui ne fait plus Paris-Dakar.
Non.
Et c'est là aussi, certains diront qu'il a perdu un petit peu de sa superbe. Malgré tout, il suscite encore beaucoup de convoitises. Hein. On rappelle que pendant un temps, le Rallye-Dakar s'est joué en Amérique du Sud. Là, ils sont revenus dans le désert saoudien. Mmh. Ton regard un petit peu de suiveur, c'est vrai que c'était quand même un changement qui était brutal.
Oui, effectivement, bah c'était surtout par des raisons de sécurité. Voilà, c'est pour ça que ça avait été délocalisé, malheureusement. Hein. Sur certains territoires en Afrique, il y avait des gros risques, c'est pour ça. Effectivement, ça perdait son charme. Et puis après, voilà, c'est revenu en Afrique, parce que c'était là la base de cette épreuve. Il y a quand même 770 participants quand même à cette épreuve, que ce soit auto, moto et camion et véhicule d'assistance. Donc ça, le charme agit toujours. Hein. Donc dès qu'on parle du Dakar, voilà, il y a beaucoup de dieux qui s'illuminent. Tant mieux, voilà, et que ça continue. Peut-être un jour, on reviendra peut-être sur les bases du Dakar. Je le souhaite. Voilà, ça serait très bien. Mais voilà, c'est toujours des paysages magiques à regarder. C'est, je me tiens mon chapeau à ces gars-là parce que c'est vraiment très dur de s'enfiler des étapes très longues, des étapes marathon. Au volant de ces voitures, vous êtes secoué, vous avez la poussière, voilà.
Prendre les meilleures trajectoires.
Les trajectoires. Et en plus, des fois, les dunes, c'est très piégeux, hein, parce que vous pensez, la dune, ça va passer tout seul, et en fin de compte, ben, ça plonge, et hop, vous partez en tonneau. Donc, effectivement, un grand courage aux participants à cette épreuve. Ben, je pense aussi aux motos, qui eux, ben, voilà, aussi, quand ils se cassent la figure, je me rappelle une fois, c'est le neveu qui avait les jambes fracturées, qui avait réussi à rallier l'arrivée d'une étape. C'était complètement fou, mais voilà, c'est aussi un défi d'homme devant l'immensité.
Merci Olivier, le Dakar c'est à suivre donc encore cette semaine. Oui. Et si vous voulez regarder, c'est vrai que les paysages sont magnifiques sur la chaîne L'Équipe tous les midis et tous les soirs également. Il y a un résumé.
Oui, c'est très bien. Je trouve là c'est encore plus.
C'est diffusé gratuitement.
Oui, et plus étoffé que comme il y avait sur France 3. Là c'est encore plus étoffé. Et puis aussi, bah, si vous voulez prendre les nouvelles de Roland Chabot, il y a un petit article sur lui sur le West France.
Le West France du jour.
Le West du jour, voilà, et vous pouvez lire un peu la monture de cet homme.
Merci Olivier, on va revenir au foot rapidement avec la petite chronique de Théo et Stan. Vendez-nous le foot, ils partent à la découverte des acteurs du football local. Cette fois-ci, eh bien, ce sera Didier Moracini. Stan et Théo sont allés à leur rencontre.
Bonjour à tous, vous êtes bien avec l'équipe VNF pour l'instant VNF. Aujourd'hui, on a un comité avec Didier Moracini. Bonjour Didier.
Bonjour.
Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ?
Donc Didier Moracini, j'ai 52 ans, je suis arrivé en région vendéenne il y a 6 ans, après un parcours en région parisienne dans différentes catégories.
Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours en nous citant éventuellement quelques passages qui t'ont particulièrement marqué ?
J'ai eu l'opportunité, moi, de faire différentes catégories, un parcours assez atypique, donc que ce soit des garçons, des filles, dans différents niveaux. Évidemment, ce qui m'a marqué le plus, c'est que j'ai pu côtoyer le niveau national en 17 ans à Brétigny-sur-Orge, un club amateur qui était, puisqu'il est descendu l'année dernière, depuis plus de 25 ans au plus haut niveau national. Là, ça m'a marqué parce que tu touches vraiment le plus haut niveau, tous les détails comptent, tu es confronté face à des centres de formation professionnels. Donc là, c'était vraiment, vraiment très récent. Et puis, j'ai fait l'inverse à un club de quartier qui, alors avec évidemment un autre contexte, mais aussi intéressant parce que tu développes quelque chose d'autre, tu t'adaptes à un autre contexte et une autre manière de faire, quoi.
Tu as l'occasion d'encadrer des jeunes, mais aussi des seniors. Est-ce que tu peux nous détailler les avantages, mais aussi les inconvénients d'encadrer chacune de ces catégories ?
Alors, les jeunes, l'avantage des jeunes, c'est qu'ils sont malléables, c'est-à-dire qu'ils vont te suivre. Si tu arrives à les faire adhérer au projet, à ta façon d'être, ils vont te suivre. Et c'est plus facile, ils sont plus ancrés sur le foot que vont l'être des seniors. Après, ça dépend de la catégorie des seniors. Évidemment, un senior district, c'est moins impliqué dans un projet, c'est moins impliqué dans le foot, c'est plus venir jouer avec les copains, et c'est ça la difficulté par rapport aux jeunes qui eux sont dans l'état d'esprit football, venir s'entraîner, venir jouer. Ça c'est leur façon d'être, de vivre. Après en senior, ça devient compliqué parce que certains ont un passé, un vécu. Ils te suivent plus ou moins, ils sont à la fois dans la compétition sans vraiment l'être, et c'est vrai que senior c'est beaucoup plus compliqué.
Et si tu devais décrire l'éducateur Didier Moracchini en trois mots, qu'est-ce que tu dirais?
Ah, bonne question. En trois mots. Alors, trois mots, c'est très court. Hein. Je vais dire exigeant. Je suis exigeant, déjà d'abord envers moi-même, ça c'est la première chose. Après, je vais dire joueur. Je suis quelqu'un qui est joueur, avec la compétiteur avec, mais c'est pas que compétiteur. Voilà, c'est beaucoup le jeu par le jeu. Voilà. En trois mots, c'est très court, mais c'est ce qui me caractérise.
Alors, il existe de multiples manières de jouer au football. Quelle est ton approche du jeu?
Alors moi, déjà, c'est un jeu de possession, mais pas stérile. C'est-à-dire, la possession dans la largeur, ça m'intéresse pas. C'est un jeu au sol. Enfin, j'essaye de l'appliquer comme ça, avec une idée de jouer haut, d'être dans le camp adverse, d'à la fois varier l'utilisation de la largeur, le jeu dans la verticalité, mais surtout de utiliser toujours le contre-pressing et la possibilité de relancer course. Ça, c'est ma marotte, les ressorties de balles. C'est vraiment ma marotte, quoi. C'est comme chaque entraîneur a sa petite marotte, sa petite sensibilité. Moi, ça part de là. Je me dis toujours, tout part du jeu arrière, de la relance. Donc, évidemment, on est dans une société où, et surtout dans le football, où on est dans l'immédiateté, dans le résultat à tout prix, la fameuse culture de la gagne. Moi, je pense que c'est d'abord dans la construction, et ça, c'est un peu dans dans mon projet de jeu, c'est ça, c'est la ressortie de balle, la manière d'être, la manière de faire, qui va t'amener à la performance de résultat. La performance de résultat, évidemment, je vais dire, c'est la finalité, et comme tous les entraîneurs, si on gagne, je vais pas dire, je suis pas content, mais je veux dire, si j'ai pas eu ce que je voulais faire avant dans le bon projet de jeu, dans la manière d'aller chercher la performance de résultat, moi, ça me gêne, tu vois. C'est surtout ça, quoi. Dans mes approches de jeu, il faut qu'il y ait les deux. Le contenu et le résultat. Évidemment, je ne suis pas idiot. Si j'ai que le contenu, mais pas le résultat, il y a une déception. Si j'ai le résultat, je serai satisfait, mais pas à 100%. Mais ce qui est important pour moi, c'est que les deux soient mis en osmose.
Et quelles sont tes sources d'inspiration dans le football actuel? En quoi cela impacte-t-il ta façon de le transmettre?
On a tout. Je pense que je veux pas être original. Il y a évidemment, comme tout le monde, quand on regarde les équipes de Guardiola, même plus Barça, même City maintenant. Évidemment, j'aime le beau jeu, j'aime la possession, j'aime le jeu de position, tout ce qui fait ce qu'on voit à City. C'est pas très original, comme je viens de te dire, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Après. Le problème, c'est de l'appliquer au niveau où tu es. Et on dit toujours qu'il faut adapter ton jeu au contexte, aux joueurs que t'as. Moi, c'est presque ma difficulté. Comme je dis, je m'inspire de gens qui sont tellement dans l'excellence, tellement dans le petit détail, tout ça, que après, c'est presque ça qui me gêne dans mon approche, de pas pouvoir le retranscrire aux équipes que j'entraîne, quoi. Même si j'essaye de le faire et que c'est peut-être mon défaut, je change pas. Je me dis toujours, avec le temps, je vais y arriver. Même si les joueurs sont peut-être pas tous appropriés par rapport à ça, quoi.
Alors, on sait que lorsqu'on est éducateur, il y a aussi des difficultés, notamment les conflits avec les joueurs. Toi, personnellement, comment tu les gères?
Alors, après, il y a dans la notion de conflit. Je fais toujours passer le collectif avant tout. C'est la première chose. J'estime que le joueur, alors le conflit généralement c'est simple, hein, c'est le joueur qui joue pas qui crée le conflit ou le joueur qui joue pas assez pour diverses raisons. Hein. Quand j'étais joueur, des fois on a du mal à évaluer son vrai niveau et c'est vrai que ça peut amener à une situation de conflit. Moi, j'estime que c'est le collectif qui doit résoudre le problème. C'est-à-dire que moi, j'ai discuté, mais si le gars, il n'arrive pas à admettre son erreur et à rentrer dans le collectif, j'estime que c'est le collectif qui va l'enlever du groupe. Et on peut faire des erreurs, évidemment. Je suis très indulgent. Tout le monde a le droit de faire une erreur. Même la plus grosse erreur, pour moi, ça ne me dérange pas à partir du moment où elle ne se répète pas. Mais je te dis, la première chose qui me permet de gérer un conflit, c'est d'avoir une réflexion toujours collective. Toujours collective. Le collectif doit passer avant individuel, même avant moi. Le collectif, c'est ce qui doit modeler toute la saison, quoi.
Et selon toi, est-ce qu'une causerie, elle doit être improvisée ou préparée? Et dans ce cas-là, est-ce que il y a une importance concernant le contexte du match dans sa conception?
Alors la causerie, on a tous comme des bases sur la causerie, on a toujours nos feuilles préparées de causerie. Après la causerie, c'est un outil de communication, hein. On le voit bien, la causerie, on passe tous dans l'idée, les gars, c'est aujourd'hui, on faut faire les choses, match important, et après il y a ce qu'on dit et les actes. La causerie, c'est franchement, c'est un outil motivationnel, mais après la causerie improvisée, tu fais sur le moment, tu te sers de ce que t'as vu la semaine, tu te sers du contexte. Alors après, tu peux avoir le contexte derby, tu sais que ça peut toucher les joueurs, tu peux avoir le contexte de classement. Moi, je t'avoue que les causeries, je prépare sur le papier, oralement, je m'appuie sur ça, mais j'ai pas une trame définie, quoi. Hein. Je ramène toujours au contexte, à la situation où on est, la situation actuelle, que tu sois dans le classement ou pas le classement, la notion de collectif, de ce que j'ai vu en entraînement. Après, c'est pas plus préparé que ça, moi, me concernant la causerie. On dit souvent c'est la causerie qui fait gagner le match. On l'a vu hein, sur Pascal Duprat. Vous avez vu comme moi Pascal Duprat avec les images, les photos. Alors, on montre généralement, on montre que les causeries qui marchent. Hein. On montre pas les causeries qu'on a fait qui étaient avec le même état d'esprit, les mêmes photos, les mêmes même accentués sur les outils émotionnels et que ça marche pas. On l'a tous fait. Hein. Tous les coachs ils en font des causeries. Hein, et après on montre que celles qui marchent. Donc la causerie, oui c'est important pour moi. Mais c'est pas le détail qui va te faire gagner ou perdre un match.
Alors on sait que les transitions jouent un rôle crucial dans le football moderne. Quel est ton rapport à cela et comment les travailles-tu toi personnellement avec tes joueurs?
Tout à l'heure on parlait des approches, des influences. Moi j'aime bien quand on parle des transitions, notamment la transition off-def sur le gegenpressing que fait Kopp, avec cette idée qu'il développait en disant que à la perte de balle, faut déjà avoir une autre idée. C'est pas une perte de balle, c'est pas un ballon qu'on va récupérer, mais c'est une nouvelle animation offensive. Il partait de cette idée-là. Donc moi, j'aime bien, dans la transition off-def, me dire à la perte de balle, on doit déjà être prêt à récupérer le ballon pour attaquer. C'est plutôt que penser à se replacer et défendre. Alors, c'est ce qu'on nous inculque, fermer le couvercle direct, avoir gérer la profondeur si on est haut, tout ça, on nous l'inculque dans les formations. Moi, j'ai dans l'idée qu'à la récupération, la récupération doit se projeter sur une nouvelle animation offensive. J'ai cette transition-là. Après, sur les récupérations, je te dis, ça dépend, moi, plutôt les transitions, ça dépend où tu les fais, dans quel positionnement sur le terrain. Si t'es un positionnement bas, bah, c'est compliqué, même en récupérant le ballon, d'aller vers une action offensive. C'est une action de récupération, mais surtout, tu repars dans la préparation. Et moi, je pense que sur un positionnement, c'est le positionnement qui fait la transition pour moi.
Comment, selon toi, un jeune éducateur ambitieux qui souhaite progresser et évoluer au plus haut niveau doit se comporter pour atteindre son objectif?
Déjà, il faut regarder, écouter regarder ce qu'on fait les autres, écouter des éducateurs, mais de tout niveau, toute expérience, de faire un peu son cheminement par rapport à ça, de prendre tout ce qu'on peut prendre, et après de faire un tri en fonction de ce qu'on est, c'est ça quoi. Après, éducateur ambitieux, oui, je pense qu'il faut être patient aussi. Patient. C'est évidemment qu'on espère tous aller côtoyer, quand on a son diplôme, c'est pour aller côtoyer quelque chose d'intéressant, que ce soit dans le football masculin ou féminin, à un certain niveau. Mais je pense qu'il faut d'abord de la patience, se construire et après, lorsqu'on a bien réussi à se formater, à se savoir ce que l'on est soi, en tant qu'éducateur, de ce qu'on veut, là on peut se projeter.
Il y a aussi une autre difficulté que les éducateurs rencontrent avec leurs joueurs, c'est notamment la concurrence. Comment tu l'abordes et est-ce que tu as une technique particulière pour la gérer au mieux?
Alors la concurrence, moi j'aime bien avoir tous les postes doublés et j'aime bien que tout le monde soit concerné. Ce que j'explique, j'ai pas une équipe type, j'ai 4-5 joueurs de base avec un projet de jeu, un collectif. Et en fait, mis à part ces 4-5 joueurs qui sont essentiels généralement dans un groupe, dans un vide groupe, tout ça, je fais en fait beaucoup de rotations. Je veux que tout le monde soit concerné. Donc, je prends les joueurs par rapport à la forme du moment, je leur explique. Et puis, c'est jamais dévalorisant d'aller jouer dans une équipe B. Pour moi, c'est un groupe. Généralement, on a une équipe A, B, voire dans certains clubs C, même s'ils sont moins confrontés aux deux premières équipes. Et de dire, en fait, tout le monde est concerné. Mais par rapport à un moment, à un instant T, ça sera toi, Et ça veut pas dire que la semaine d'après, ça sera fermé pour l'autre, quoi. C'est pas des places à vie. Je te dis, après, j'ai vraiment une base avec généralement une colonne vertébrale, des joueurs d'expérience ou des joueurs qui sont nécessaires pour la stabilité de l'équipe. Et après, beaucoup de rotation. C'est-à-dire que tous les joueurs, à tout moment, peuvent se dire, je peux être en A ou en B et se sentir concerné par tout ce qui peut se passer pour les deux équipes.
Donc, actuellement, on constate que les jeunes joueurs jouent de moins en moins au football dans la rue. Est-ce que c'est un constat que toi aussi tu fais, et est-ce que tu penses qu'il y a un moyen d'y remédier au niveau de l'entraînement pour pouvoir ramener les jeunes à l'essence même de la technique au niveau du football?
Alors c'est un constat qu'on a ici. Moi je viens des régions parisiennes, d'Evry, des quartiers. Les gamins jouent encore beaucoup dans la rue, hein. Que ce soit le City ou même en bas de chez eux, en bas des immeubles. Nous c'était courant, c'est comme ça. C'est vrai qu'ici il y a moins cette culture du foot de rue. Après, je pense que c'est compliqué quand t'es dans certains villages de campagne, qu'il y a distance, tout ça. Les ramener à foot de rue, c'est pas facile. Après, moi, je te dis, moi, j'ai jamais été confronté à comme t'as dit, à cette absence de jeu dans la rue. Moi, les gamins, ils étaient tout le temps, de matin au soir, même plus qu'à l'école d'ailleurs. Mais c'est vrai que ici, on le voit. Pourtant, il y a un City. Et après, est-ce que la technique du football de rue pourrait être passée par là? C'est vrai que c'est des gamins qui étaient techniquement en avance par rapport aux autres, qui avaient un potentiel par rapport aux autres. Après, il faut les intégrer dans un collectif aussi, hein. C'est la technique individuelle était, comme je te dis, vraiment évoluée. Après, nous on récupérait des joueurs qui, on n'avait pas leur apprendre des contrôles, on n'avait pas apprendre des dribbles. Mais après, on le voit, et même plus haut, tu le vois à tout niveau. Les mecs qui ont été dans le football de salle ou de rue, que je pense notamment, j'ai lu un article dernièrement sur Cherki. Après, il faut qu'ils arrivent à jouer avec les autres. Et c'est peut-être ça la difficulté. Il n'y a pas que le foot de rue, quoi.
Donc, tu viens de nous le dire, tu as été éducateur en région parisienne et aujourd'hui, tu es en Vendée. Pour faire le parallèle entre les deux, est-ce que tu constates des différences majeures en termes d'encadrement, de management, des différents groupes que tu as eus?
Alors déjà, la comparaison n'est pas possible, déjà, au niveau bassin population. Moi, j'ai cité Bretigny, c'est un club énorme. On avait à peu près plus de 60 joueurs sur des catégories 17. Donc le management, tu le fais pas pareil. Il y a des joueurs que je connaissais pas. Ici, c'est plus petit. Tu vois, on en voyait en plus avoir aussi même des groupements, c'est-à-dire sur des regroupements de plusieurs clubs sur de différentes communes. Le management, c'est carrément différent. On peut comparer en rien, quoi. Donc plus de bassin de population veut dire plus de qualité, plus de quantité, donc plus de qualité, comme je viens de le dire. Ici, évidemment, tu as des joueurs de très grande qualité, mais moins nombreux. Donc, tu manages pas pareil. Quand je suis arrivé à Chalands, qui est comme un club important de la région vendéenne, j'avais 28, 29 joueurs en U17, et je suis parti d'un club avec 60 joueurs. Et des garçons de qualité, hein, des garçons qui auraient pu jouer dans certaines équipes nationales, mais je te dis, la quantité fait que tu gères pas pareil, quoi.
Et pour terminer, du coup, la question qu'on souhaitait te poser, c'est quelles sont tes ambitions futures, et comment tu vois l'avenir et comment tu t'y prépares?
Alors, ça, c'est une bonne question. J'avoue que moi, j'ai vu pas mal de choses en jeune, du plus bas niveau au plus haut niveau. Moi, effectivement, j'aimerais rejoindre, je le cache pas, une équipe, un club plus structuré, une équipe de ligue, sachant que c'est très difficile. Maintenant, on se rend compte qu'il y a même des DES qui se retrouvent en R2, R3. Donc, mon ambition, c'est d'aller retoucher une équipe de ligue en senior. Et sinon, de m'orienter peut-être dans un rôle, disons, moins terrain, plus directeur sportif. Voilà.
Très bien, mais on te remercie Didier pour ton sens du partage. Et on vous dit tous à très vite pour un nouvel épisode de l'Instant VNF. Merci à tous.
Et on termine cette émission, ça ne vous aura pas échapper. Il fait très froid en ce moment. Les conditions pour faire du sport sont difficiles, peut-être un peu moins motivantes que le reste de l'année. Et forcément, autour de la table, nos sportifs en herbe ont des solutions, des idées pour pratiquer une activité malgré cette météo. Alors, je vais d'abord me tourner vers toi, Marianne, qui est monitrice de vélo notamment. À cette période, qu'est-ce que tu recommandes comme activité, le cycliste notamment, pour réussir à faire du sport en plein hiver?
Alors sur l'activité vélo de manière générale, l'hiver c'est l'occasion, en tout cas pour ceux qui pratiquent le cyclisme traditionnel, de poser le vélo de route et peut-être de découvrir une activité comme le cyclocross ou le VTT. On s'aperçoit qu'un environnement comme une forêt, c'est un isolant naturel. Donc l'été, on y va plus facilement parce qu'il fait frais, et l'hiver, on apprécie d'y être parce qu'il fait un peu moins froid. Donc c'est l'occasion de découvrir une nouvelle activité, c'est aussi l'occasion peut-être de travailler un peu la technique, en tout cas pour les vététistes pratiquants ou ceux qui découvrent. En fait, l'hiver, c'est vrai que la motivation est souvent absente. C'est bien de continuer à pratiquer une activité régulière, parce que déjà, on aura le sentiment d'être parti et d'avoir fait l'activité en question. Évidemment, sur l'hiver, en termes de conditions, que ce soit le froid et l'humidité, il est toujours conseillé peut-être de faire des séances plus courtes aussi, de décaler son horaire de départ. Il y a des spécialistes qui partent à 8 heures, c'est bien de partir au moins après le lever du soleil. Oui. En tout cas, quand il y a du soleil, ça réchauffe légèrement. Bon, quand il n'y en a pas, ça ne va pas changer grand-chose, mais au moins on y voit quelque chose, puisqu'on on a des horaires.
Et ne pas partir trop tard.
Exactement. Donc, une séance de 2 heures, entre 2 et 3 heures d'activité, déjà le matin, en tout cas, c'est très bien. L'après-midi, il n'y a pas de difficulté. Et puis, ce qui va changer dans un premier temps, c'est l'équipement du pratiquant. Donc là, on va pouvoir dévoiler un petit peu un équipement type de haut en bas ou de bas en haut. Alors en haut, évidemment sous le casque, qui reste fortement conseillé dès qu'on va faire une activité.
Ouais, quand on part en VTT, de toute façon, voilà. Le casque il est
alors,
nécessaire.
Alors il n'est pas obligatoire, oui. Mais il est évidemment plus que nécessaire. Donc on trouve aujourd'hui des petits bonnets assez fins en fibre polaire qu'on peut glisser sous le casque. On va privilégier le tour de cou aussi, qui s'enfonce bien dans le maillot et qui permet de protéger l'ensemble du cou et puis la partie du dos aussi avec la colonne vertébrale. En fait, c'est bien parce qu'en termes de sentiment, enfin, de ressenti, quand le cou est protégé, on a l'impression d'avoir plus chaud.
Et alors les extrémités peut-être aussi, notamment
alors,
les doigts.
Voilà, on y vient, mais du coup après sur la partie haute du corps, on va utiliser le système traditionnel du trois couches, donc avec un vêtement technique en première couche, un vêtement chaud en deuxième couche et un vêtement isolant, en tout cas isolant au niveau du vent. Et puis quand on continue au niveau du haut du corps, bah, les gants. Donc c'est pareil, on évite le traditionnel gant les mitaines ou le gant tout fin en VTT, on va vraiment choisir un gant d'hiver ou un gant de pluie.
Et potentiellement d'ailleurs avoir deux couches de gants,
c'est... Non, en fait, deux couches, c'est pas forcément nécessaire parce qu'on n'est quand même pas à la montagne avec des températures à moins 20. Donc ce qu'il faut retenir en vélo, c'est qu'on doit quand même avoir une accessibilité aux freins et surtout un toucher de frein qui doit être important. Donc du coup, plus on a de couches, moins on a de sensibilité au freinage. Donc aujourd'hui, il faut aller s'équiper chez un spécialiste du vélo. Évidemment, il ne faut pas prendre des gants de ski parce qu'on a zéro mobilité. Donc c'est important de le préciser.
Bien sûr, bien sûr.
Et aujourd'hui, on a les grandes surfaces du sport. Il n'y a pas que les spécialistes hein, qui proposent des produits. Les grandes surfaces du sport proposent aussi des produits adaptés, peut-être un peu moins chers. Alors là, c'est la période des soldes, donc il faut en profiter pour aller vous équiper. Et après, quand on descend, eh bien, on va profiter aussi en VTT, notamment en utilisant un pantalon thermique. Ça permet d'avoir de l'aisance au niveau des genoux. Pour les pratiquants route ou cyclocross, eh bien, on va aller sur un cuissard long avec un revêtement c'est pareil, thermique à l'intérieur. Le top du top, hein, c'est une fibre Gore-Tex. Alors après, en termes de budget, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis après, on termine par les chaussettes, c'est pareil. Au niveau des chaussettes, tout comme les layers qu'on peut utiliser sur le haut du corps, on va aller sur quelque chose d'un peu épais, le top, laine mérinos, là au moins on est sûr d'avoir bien chaud aux pieds. Et quand il pleut, il y a aussi des chaussettes en fait qui sont complètement isolantes par rapport à l'eau. Donc ça c'est très bien. Et on termine par les chaussures. Ça c'est important aussi. Il existe aujourd'hui des chaussures spéciales hiver. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'on est isolé, les chaussures sont un peu moumoutées, on n'est pas sur des moon boots non plus, hein, donc ça reste assez light. Et puis l'avantage aussi quand on pratique le VTT, l'hiver c'est aussi l'occasion de changer de chaussures, c'est-à-dire qu'on va quitter la pédale auto, on va aller sur ce qu'on appelle de la flat, c'est-à-dire une pédale plate avec une chaussure adaptée. Et du coup, on s'aperçoit qu'en hiver, la chaussure et le pied restent plus mobiles. Donc, on n'a pas de fourmis liées au froid, etc. Donc ça, c'est le top du top.
Et alors, par rapport à la chaussure encore, peut-être les surchaussures qu'on peut voir également, peut-être plus pour les pratiquants du vélo de route.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est un élément isolant qui est important quand on n'a pas de chaussures spéciales hiver. Donc, on n'a pas forcément le budget pour avoir une paire de chaussures été.
Imaginons, je fais du vélo, je garde mes chaussures 12 mois l'année, c'est les mêmes.
Ce sont les mêmes. Bah, tu peux aller chercher effectivement des surchaussures en thermique. Donc, ça va te maintenir un peu au chaud. Mais c'est vrai que pour nos amis qui pratiquent la route, c'est compliqué parce que le pied est vraiment figé sur la pédale. Ils vont à des vitesses aussi qui sont beaucoup plus élevées qu'en VTT, forcément. Et du coup, ils ont froid beaucoup plus rapidement. Après, sur l'aspect pur pratique, si on reste dans le domaine du VTT, eh bien, on va aussi adapter le choix des pneumatiques sur notre vélo. On privilégie des pneus qui sont plus boue ou en tout cas mixte. On va quitter les pneus sans crampons de l'été. On ne cherche pas la performance, on cherche surtout à maintenir une trajectoire et puis avoir de l'adhérence au sol. Donc ça c'est important. Et puis sur un dernier point aussi, on n'oublie pas qu'on roule toujours en groupe. En fait, de parler, d'échanger, de rigoler à plusieurs, en fait, finalement ça maintient aussi un certain état de motivation et à plusieurs forcément un peu plus vite. Et puis je parlais d'un dernier point, mais c'était l'avant-dernier. ne pas oublier que l'hiver, en fait, quand on prend son téléphone portable, on doit le placer dans des poches spécifiques, isolantes. Parce que là, une nouvelle fois, on n'est pas sur des températures à moins 20, mais il se peut que le téléphone fonctionne moins bien. Et selon l'endroit où on se trouve en forêt, c'est important de pouvoir prévenir les secours. Aujourd'hui, en VTT notamment, les sacs sont conçus avec des poches spécifiques qui garantissent une isolation. Et dans les vestes également que l'on utilise, on a des poches intérieures qui sont complètement imperméables. Et en plus, il y a un revêtement thermique à l'intérieur, donc le téléphone craint un peu moins.
Donc sur la pratique du VTT, donc si on résume un petit peu, des sorties peut-être un peu plus courtes, bien penser à décaler son horaire par rapport à son horaire de départ par rapport à ce qu'on peut faire notamment l'été. Alors, puisqu'on parle du VTT, il y a un superbe terrain de jeu ici dans le sud Vendée, avec notamment la forêt de Mervan, etc. Le risque peut-être aussi, c'est de se dire, notamment avec les conditions météo, d'avoir des terrains qui sont très boueux, trop boueux, à la limite de l'impraticable. Peut-être le gel également à prendre en compte, c'est des choses auxquelles il faut penser avant d'établir son circuit.
Oui, c'est sûr. Effectivement, sur la préparation de la sortie, il est important d'anticiper un petit peu. Tout simplement parce que de manière assez naturelle, la forêt de Mervan, elle est assez humide en fonction de l'endroit où on va se situer. Et du coup, il y a en fait une mutation quand même de l'espace roulant qui est à prendre en compte. C'est-à-dire que les endroits où on passe en temps normal, qui sont plutôt secs, ben là, avec la montée des eaux, c'est impraticable. Donc on doit complètement modifier ses circuits. Souvent, on doit même faire demi-tour. Alors après, le gel en question n'est pas du tout un problème, hein, parce que c'est juste que quand ça dégèle, ça fait de l'eau en plus. Mais c'est surtout que sur certaines parties un peu techniques, en fait, on a des écoulements d'eau en fait qui ruissellent. Et comme les cailloux sont un petit peu glissants déjà en forêt de Mervan, bon, ça farte un peu plus, quoi.
Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, imaginons la personne qui fait du vélo de route quasiment toute l'année, qui même là en plein hiver va faire du vélo de route, comment est-ce qu'on pourrait la convaincre d'aller justement sur le VTT en cette période hivernale et de ranger un petit peu son vélo de route à cette période?
Ben c'est le côté ludique qui est assez intéressant. Et puis, justement, ce qu'il y a de bien, c'est de changer, de moduler un petit peu son activité. C'est ce qui est d'ailleurs recommandé. Hein, aujourd'hui, les pros, l'hiver, font du cyclocross.
Comme Mathieu Van Der Poel, par exemple.
Exactement. Donc, en fait, ça permet d'avoir une certaine aisance sur le vélo, de travailler un petit peu l'équilibre aussi. Puis, tout simplement, ça change. C'est-à-dire que les cyclistes ont l'habitude, justement, de leur parcours, que ce soit de 30 à 180 km, ils les font toujours dans le même sens ou inversement, ils savent d'où vient le vent, etc. Là, l'hiver, c'est l'occasion de casser un petit peu les codes et puis d'amener une routine, enfin de casser la routine et d'amener quelque chose de très intéressant au niveau du mental et de la préparation globale en fait, des athlètes, qu'ils soient débutants ou déjà professionnels.
Et le tout, évidemment, tout en restant bien couvert. Alors, Christian, toi, en ce début d'année, tu as fait quelque chose où tu n'étais pas du tout couvert, pour le coup, ou beaucoup moins, en allant se baigner dans l'océan par des températures. Alors, l'océan était à combien, à peu près
je crois que c'était 8 degrés, il me semble.
8 degrés. Donc, se baigner par 8 degrés en cette période du mois de janvier, ça a des bienfaits, j'imagine. C'est pour ça, sûrement, que tu le pratiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça?
Oui, bah, c'est, les bienfaits sont évidents en termes de santé, de bénéfices, notamment pour renforcer, booster son système immunitaire. Aussi ben, pour brûler des calories, ça c'est important aussi à cette période-là. Par contre, oui, c'est important de ne pas le faire n'importe comment. Déjà, il faut trouver, on va dire, du sens à l'idée de le faire. Hein. Donc, dans les recommandations qui sont faites pour aller pratiquer la baignade en eau froide, alors déjà, il y a des clubs de longe côte qui existent, oui. Par exemple, à Saint-Michel-en-Lerme, il me semble à L'Aiguillon, il y en a un aussi. Donc là où on a donc justement
une combinaison.
Des combinaisons, effectivement. Donc moi je le fais sans combinaison parce que je travaille sur la façon de réchauffer son corps en amont, donc je ne le fais pas n'importe comment, avec des techniques de respiration pour ne pas être stressé du tout, justement pour que le sang puisse irriguer non pas que le cœur, le foie, donc c'est-à-dire les organes vitaux, mais que le sang puisse circuler justement pour que le froid ne soit pas impactant sur l'ensemble du corps. Et il y a des techniques effectivement pour se réchauffer avec des postures de yoga également. Donc moi je le fais justement donc sans combinaison pour travailler finalement aussi sur quelque chose de plus introspectif et pour donc en termes de bénéfices, avoir des bénéfices sur la santé, système immunitaire, etc. quoi.
Mais alors après là, moi, si là demain ou si cet après-midi, je vais au bord de l'océan et je vais me baigner, je pense que je reste pas 20 secondes dans l'eau. J'ai du mal déjà rien qu'à rentrer mon corps. Comment est-ce qu'on passe justement cette barrière psychologique de réussir, on va dire, peut-être cette première baignade en eau froide justement?
Alors déjà, tu poses une très bonne question. Déjà, il faut avoir du sens à l'idée de le faire. C'est-à-dire que si tu trouves pas le sens, moi pour moi, c'est vraiment un boost énergétique. Donc il y a quelque chose de profond, on va dire, quelque chose que j'ai identifié par rapport au stress, notamment qui nous envahit. Donc après, par exemple, si toi, tu as la volonté de diminuer tes sources de stress, après, tu choisis la méthode. Donc moi, par exemple, cette méthode, elle est accessible pour moi parce que je suis appelé pour faire ça, parce que j'aime ça, parce que voilà, le froid, c'est quelque chose qui me parle. J'ai toujours aimé aller me balader, en effet, par exemple, en forêt, quand il fait moins 3, moins 4, etc. Donc il y a quelque chose, et j'ai eu tendance à me découvrir dans ces moments-là. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas l'eau? Et après, mentalement, en fait, y a tout le processus justement respiratoire pour que tu puisses comprendre en fait, si ton corps il est apte à y aller. Par contre, une fois que tu es dedans, ton cerveau met à peu près entre 15 et 45 secondes pour accepter le froid en tant que tel.
Et une fois qu'il est accepté, on peut rester, 5 minutes, 20 minutes
Ça dépend. En fait, c'est à toi justement d'avoir connaissance de tes propres, tes propres fonctions, donc en fonction de ton propre fonctionnement du corps. Donc, moi, je te dis, la première immersion en eau froide que j'ai faite l'année dernière en montagne, dans le Cantal, ça a duré 15 secondes. Le lendemain, ça a duré 5 minutes. Et puis, jusqu'à faire une randonnée dans la neige pendant 3 heures en maillot de bain.
Bon voilà, en tout cas, c'est une autre manière d'appréhender la baignade finalement à cette saison. Et d'ailleurs, parler de randonnée, c'est vrai qu'on a parlé de VTT, mais la randonnée aussi, c'est une période formidable pour aller marcher dans la forêt de Mervent et faire des longues randonnées justement, où c'est peut-être plus agréable par cette température qu'en plein été.
En fait, la particularité justement des sports de pleine nature, c'est qu'on on redécouvre un lieu à chaque saison. Donc il ne faut surtout pas se priver d'aller randonner, d'aller découvrir, quel que soit son mode de déplacement. Et puis l'hiver, effectivement, quand on est l'automne et l'hiver, puisqu'on a un automne pluvieux aussi, On peut tout à fait se déplacer sans aucune difficulté. C'est pareil, on utilise les mêmes codes en termes de tenue vestimentaire et on n'a pas de problème. Hein. Donc il ne faut surtout pas se priver d'aller tout le temps en forêt. Et ça stimule effectivement le système immunitaire. Donc ensuite, après une bonne balade avec moi, vous piquez une petite tête dans le lac de Mervan avec Christian et là vous êtes au top. Quoi. Vous attaquez la saison, génial.
Par contre, justement, j'insiste sur le fait que cette pratique, elle est importante d'être encadrée. Alors, il y a des gens qui peuvent vouloir le faire par eux-mêmes, mais moi, j'encourage en effet, comme quand vous allez dans une nouvelle pratique sportive, dans un club de basket, de foot, de tennis, etc., aller dans l'eau froide. Je pense qu'il y a besoin d'un encadrement quand même au départ pour bien comprendre ce qui s'y passe et ce que vous ressentez, puisque je pense que c'est important de comprendre aussi ce qui se passe d'un point de vue corporel et mental. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les clubs de
Golfcote notamment. Olivier, les sports automobiles cette saison, c'est un peu la période où on ronge son frein ou au contraire, justement, c'est comme les sports en pleine nature, il y a d'autres manières justement d'appréhender la saison sportive notamment.
Bien, en sport automobile, effectivement, on est un petit peu en le début de saison, c'est le redémarrage. C'est un peu l'hibernation. Voilà, donc ça commence déjà par la recherche de sponsors, déjà, pour repartir de bonne base. C'est déjà la réunion principale, la préparation de la voiture, la préparation du garçon également. Faire un petit peu de vélo, faire un peu de marche. Et également, malgré que des fois, il ne fait pas très beau, mais voilà, il faut se motiver, comme on dit. Effectivement, c'est surtout dans la tête que ça se passe. Moi, je parle de mon expérience quand j'étais gendarme, voilà, que je faisais des services de nuit par moins 3, moins 4 dehors pendant 4 heures. Donc après, c'est dans la tête, ça se passe. Quand on fait pratique de sport, il faut faire quand même attention, il faut bien se connaître, pas aller au-delà de ses limites, comme on voit des fois, malheureusement. Ça demande une bonne préparation. Et puis après, il y a aussi les salles de sport, hein, heureusement, qui sont là pour, lorsque c'est dehors, il ne fait pas beau. On peut aller effectivement dans les salles de sport après pour se régénérer un petit peu.
Pour terminer cette émission, justement, Olivier a utilisé une expression, le « c'est dans la tête ». Alors, « c'est dans la tête », est-ce que c'est une expression qui est galvaudée, justement, à cette saison, on parle beaucoup, voilà, il faut se motiver, notamment psychologiquement, pour faire ses sorties. Alors, Christian, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment... Quel est l'impact finalement de le fait de se dire « allez, je me déclenche, j'y vais » et justement sur l'aspect mental notamment?
Comme d'un point de vue mental, toute décision, d'abord, c'est, pour moi, il y a une décision de mise en conscience des choses. Qu'est-ce que je veux? Quel sens je donne à ce que je veux faire? Après, le mental, en fait, s'il existe, parce que je pense que tout le monde a un très bon mental. Et des fois, il n'est pas exploité au sens où, justement, on n'a pas conscience, en fait, de ce qu'on... Moi, par exemple, pour l'histoire de l'immersion en eau froide, honnêtement, il y a 2 ans en arrière, j'aurais pas cru du tout que j'étais capable de le faire. Donc, en fait, mentalement, mon cerveau était câblé pour faire d'autres choses. Et à partir du moment où on prend conscience de capacités, quand on a des informations, quand on arrive à comprendre, finalement, un peu mieux ce qu'on est... finalement en mesure de faire, le mental, il est capable de répondre à d'autres choses. Donc c'est une question, comme tu dis, de motivation. Je pense que c'est toujours, ça part d'une prise de conscience au départ. Une prise de conscience pour un tas de raisons. Donc ça peut être lié à la santé, ça peut être lié à la performance, ça peut être... Mais le mental, en fait, il va vraiment être capable d'articuler, de répondre. Il est là pour ça, justement. Et c'est quand on n'a pas conscience, on ne sait pas, quand on n'a pas les connaissances, quand on a une ignorance, on va dire, sur certains sujets, on va tendance à avoir... à répéter les mêmes schémas fonctionnels, parce que finalement c'est ce qu'on appelle cette fameuse zone de confort dans laquelle nous pouvons tous nous retrouver. Et maintenant je vais vous le dire aussi, la zone de confort, si elle existe, c'est pour une bonne raison, c'est justement pour que votre cerveau soit opérationnel. Donc c'est pas grave en tant que tel d'en avoir une, après c'est ce que vous voulez explorer au-delà, mais la motivation, elle va partir effectivement d'une prise de conscience, d'une prise de décision et d'un choix fort que vous allez faire en amont, quoi.
Moi, je peux vous raconter un petit vécu qui m'est arrivé lorsque j'ai fait mon service militaire. J'ai fait un stage, un peu commando. Et donc, l'instructeur nous dit, à la fin du stage, on va faire un semi-marathon de 21 km. Alors moi, qui ne courais pas plus de 4 km, déjà qui était déjà mort, je me suis dit, putain, mais il est fou, lui, quoi. Et puis, en fin de compte, c'est dans la tête, effectivement, parce que j'ai commencé à courir. Et donc, avec quelqu'un, on nous avait mis par...
Par niveau,
voilà, c'est ça. Et enfin, quand je me suis surpris à courir 15-20 km, et effectivement, après, j'ai fait ce semi-marathon. Et je me suis dit, bah, effectivement, c'est bien dans la tête que ça se passe, parce qu'en fait, compte, au départ, je me suis dit, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et en fait, compte, bah, à la force de se concentrer et puis de ne pas se dire, oh, là, je vais pas y arriver, et puis en fait, compte, on dépasse des fois le. On se sous-estime et puis en fin de compte on arrive à faire des choses improbables alors qu'au départ on ne pensait pas qu'on était capable.
Après pour terminer aussi j'ajouterais le poids aussi de l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous prend un peu pour des fous parce qu'on s'immerge dans l'eau, parce qu'on va faire du VTT en pleine forêt et qu'il fait moins 5 quand on part. Du coup, y a ça aussi qu'il faut dépasser à un moment ou un autre. Donc les sportifs, quel que soit leur niveau de base, ne sont pas plus fous que les autres. Au contraire, en fait, ça amène un bien-être vraiment qui est indispensable pour nous. Et puis, quand on a moins le moral, et je rejoins les copains en disant que c'est vraiment dans la tête, ça marche aussi quand on doit sortir le chien et qu'il pleut. Le chien, il s'en fout, lui, il va aller dehors. À chaque fois, on dit « Oh là, je veux pas y aller », finalement, on s'équipe. Et puis, on lui fait faire un tour de 3 minutes. On dit « On part 3 minutes », et finalement, on fait un tour d'une heure et demie. C'est pareil quand le matin, on part à vélo ou en courant. Du ouais, j'ai pas envie, je dois m'obliger. Puis finalement, ce petit moment où on se dit je dois m'obliger, ce qui correspond à je sors de ma zone de confort, ben, quand on revient, on n'a plus froid, on a la tête qui est complètement nettoyée de tout, on se sent bien et on est prêt à attaquer la journée ou en tout cas à continuer tout un tas de choses. Donc le corps et l'esprit.
Pour terminer cette émission, c'est vrai que c'était le week-end dernier, il y avait une épreuve du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre qui était le dernier homme debout. C'est une sorte de trail en fait où le dernier homme debout gagne. Il est resté 24 heures à courir alors sur un circuit de 7 km pardon, avec 270 mètres de dénivelé positif. Bon voilà, et à la fin, eh bien, il a fait 24 tours, 184 km et en 24 heures, il a été le dernier homme debout. Il a remporté cette épreuve. C'est Johan Neuzan. Merci à tous. Merci Marianne, Olivier, Christian d'avoir été là pour ce Sud Vendée Sport. Nous, on se retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle émission. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.
Et à très vite sur Digue Radio Sud Vendée.
À très bientôt.
À bientôt. À bientôt.
Toute la journée, vous écoutez Digue Radio sur digueradio.fr.